Et vous avez reconnu cet indicatif, qui est l'indicatif eh bien, que j'ai choisi pour le Festival Radio France Montpellier-Occitanie, ou Occitanie-Montpellier dans le bon sens, pour cette 35e édition. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est la 4e émission, et c'est pour cette 4e émission, il y a uniquement un invité, et c'est un invité de choix, il s'agit de Magnus Lindberg, qui est un compositeur finlandais, qui est né en 1958, que nous avons eu la chance d'interviewer, que j'ai eu la chance d'interviewer, pour vous, avec des traductions de Christelle, vous allez voir, sachant que M. Lindberg donc, est finnois, sachant qu'il parle anglais, allemand et d'autres langues, et qu'il comprend le français. Donc de temps en temps, si vous écoutez bien, vous aurez des petites bribes de français, c'est quelqu'un de fort sympathique. Et vous entendrez au milieu de ces interviews eh bien, deux musiques dont on détaillera tout à l'heure comme le titre et autres, de Magnus Lindberg qui ont été enregistrées en général, et d'ailleurs les deux c'est ça, chez le label Ondine. Donc voici Magnus Lindberg. Donc ma première question était, vous êtes compositeur finlandais, vous êtes pianiste, et actuellement il y a beaucoup de compositeurs qui sont aussi chefs d'orchestre comme Salonen, Sarast, ou Segerstam, et qui sont instrumentistes. Et alors pourquoi selon vous il y a tant de recrudescence de compositeurs chefs finlandais?
A composer is of course my main job, but over the years I've always kept a contact with also performing music, because I think this is all about teamwork, collaboration, trying to understand what music making is about. And for me personally, the feedback of playing, I also do some conducting, mainly my own music, it gives back so much that I couldn't possibly be the same composer if I hadn't done all the performance over the years. So I think this is also something that is new for our time. In 50 years ago, all composers more or less played. Then there was a period less.
Donc effectivement, je compose et je joue, ce qui peut paraître exceptionnel, ce qui l'était beaucoup moins il y a 15 ans. Et en fait, je m'aperçois que jouer, c'est important pour moi, pour le travail d'équipe, pour ce que ça nourrit. Et effectivement, ce retour que j'ai en jouant, ça nourrit mon travail. Et je serais certainement un compositeur différent si je n'avais pas ce travail d'interprète en même temps, ce qui était beaucoup plus le cas il y a quelques années.
Bien. Une de vos premières compositions, c'était justement Kraft. Voilà. Alors, c'est l'une des plus connues aussi. Et j'aimerais savoir pourquoi, à votre avis, cette œuvre s'est imposée comme étant si connue, finalement.
C'était une... that was the moment in my life when you had to do something extravagant. And of course, I was very aware of being the same age as Stravinsky when he composed Le Sacre du Printemps. And actually the funny thing with Kraft is that the commission was initially for a piano concerto, and gradually working on the piece, I was living in Berlin those days, working on the piece, it just took its own format, and it became a piece for many soloists and electronics and space and everything. So for me, it was one of those... moments in life when you had to try out something, where are the limits, and I don't want any limits.
Alors c'était tombé à un moment dans ma vie où je sentais qu'il fallait faire quelque chose. J'étais assez marquée par le fait que j'avais le même âge que Stravinsky quand il a composé le Sacre du Printemps. Et au départ, la commande qui m'avait été faite était pour un concerto pour piano. J'étais à Berlin à ce moment-là, et puis les choses se sont enchaînées et c'est devenu une pièce pour plusieurs solistes et pour instruments électroniques. Mais c'était définitivement un de ces moments dans la vie où vous sentez qu'il vous faut accomplir quelque chose d'important.
D'accord. Et comme Stravinsky, vous avez eu votre période néo quelque chose après ?
Oui, on peut le dire, oui. Ceci dit, always felt that I'm still on the same track. Of course, the language as it sounds has changed, but somewhere deep down, I hope at least, the same feeling for temperament, the same feeling for dramatic evolution within a piece, a composition, remains the same. And I don't think I could have continued down the same line after Kraft for we are speaking about a piece that is 34 years old. So for me, being a composer is about looking for some, and somehow the music takes you sometimes in unexpected directions, but deep down it's still, the source is the same.
Je pense que je suis toujours sur la même piste, même si le langage et le son ont changé, je pense dans le sens d'un approfondissement, mais j'ai toujours le même goût pour le côté dramatique des pièces, mais je pense que je n'aurais pas pu continuer exactement sur la même lancée que Kraft, et finalement je suis la musique là où elle me mène, même si c'est parfois à des endroits inconnus, mais dans le sens d'un approfondissement.
Vous êtes pianiste et vous jouez, je pense, à la plupart ou toutes vos œuvres en public. Alors comment percevez-vous quand il y a un autre pianiste qui joue cette œuvre et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ou pas?
It's a very interesting question because evidently preparing a composition, writing a score, is about putting signs on paper, but at the end of the day, what is mezzo piano? What is mezzo forte? What is staccato? What is legato? These are symbols that we, on some level, do agree on in the Western music, at least. Yet, for me, that is just a take-off platform for making music. But so much fascinates me today when I heard people playing my concertos. Concerto for clarinet and two concertos for violin, two for cello, two for piano. When I hear soloists playing these pieces, and they all have their own personal approach to the music, that's the best reward you can get as a composer. Of course, speaking about the language where notation is precise, but yet it leaves so much space for interpretation within the format. So I think that's one of the most charming things with writing music.
Alors effectivement, quand on écrit une partition, c'est juste mettre des signes sur le papier. Mais finalement, qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qu'on met derrière le mezzo forte? Qu'est-ce qu'on met derrière le mezzo piano? Donc il y a quelque chose à faire en plus. Et c'est vrai que pour moi, c'est une des choses les plus intéressantes. Quand j'entends interpréter mon concerto pour clarinette ou un de mes deux concertos pour violon ou pour piano, ils ont tous quelque chose de personnel, ces interprètes, à mettre dedans. Et c'est la meilleure récompense pour un compositeur. Même si on essaye de rendre l'écriture précise, il y a toujours de l'espace qui est laissé pour l'interprétation, et finalement c'est peut-être ce qu'il y a le plus charmant dans cette expérience de composition.
Donc pour vous, l'interprétation, c'est quelque chose de primordial. On peut, par exemple, on a toutes les interprétations, musique baroque, instruments, ceci ou cela. Donc pour vous, même au XXe siècle, vous êtes à côté, vous voyez, vous avez noté. Pour vous, c'est tout à fait important, cette notion d'interprétation.
Absolument. C'est quand même, c'est une question, we are speaking about communication between people. And I grew up in a time when we all had visions, and the generation before me had enormous visions about electronic music taking over and becoming the future. Of course, to some extent, it has done it, especially if you look into the popular music side. The electronic scenery is very dominant today there. But I think today, still, the classical instruments we have had for the last 500 years, they still communicate directly with the listener, so interpretation is very, as you say, it's a prime, it's the prime route for everything, and the fact that people come to live concerts is the best proof of that.
Effectivement, c'est une question surtout de communication entre les gens. On est dans une époque où on était plutôt avant, dans une époque où on avait une vraie vision du futur. Et finalement, c'est un petit peu la musique électronique qui a emporté le morceau. Mais pourtant, aujourd'hui, les instruments classiques continuent à jouer, continuent à attirer le public. Et finalement, c'est ce qui est la plus belle preuve qu'on avait raison. Et ce sont ces instruments-là qui laissent vraiment la place à l'interprétation. Et c'est ce qui fait que le public continue à venir dans les salles.
D'accord. Je me rappelle d'une interview de Béjart où on montrait deux photos d'un de ses ballets, deux photos qui étaient prises juste l'une à la suite de l'autre, et le commentateur disait c'est magnifique la danse, et Béjart lui a dit non, la danse c'est ce qu'il y a entre les deux photos.
C'est là, oui, c'est très bon.
Donc pour vous c'est ce qu'il y a entre les notes.
Absolument, absolument. C'est déjà une phrase.
Voilà, absolument. Si j'ai bien vu, vous n'avez jamais écrit d'opéra. Et très peu pour la voix. Pourquoi?
L'opéra passe encore. That's a long story. Bernard Foucroul, when he came to Théâtre de la Monnaie in Brussels in early 90s, proposed me a project. And we started to work on it. And well into it, I had just realized that, no, I'm not ready for it yet. And now, almost 30 years later, I'm still not ready for it. I want to touch ground with opera one day, so if I'm constantly looking for a subject what to work on, and I want to be 100% sure about what to do before I start with it. Vocal music, I've done recently a little bit more. I did a big song cycle for soprano and orchestra, Accused. I did two pieces with choir and orchestra, which is of course a bit different. But it's coincidence, unfortunately, because I love vocal music, and I earned my living in the early days being a correpetitor at the opera of Helsinki. So it's chapitre à venir.
D'accord.
Donc effectivement, c'est pourtant une vieille histoire, puisque Foucault, à la Monnaie, au début des années 90, m'avait déjà proposé de faire un opéra, mais je n'étais pas prêt. Et puis presque 30 ans après, je ne suis toujours pas prêt, même si j'en ai envie. Je cherche constamment le sujet qui me permettra de me lancer, et je veux vraiment être prêt. Pourtant, concernant la musique vocale, bon, récemment, j'en ai fait un petit peu plus, avec notamment un cycle pour soprano et orchestre et d'autres. Mais c'est surtout une question de conjonction, de coïncidence, parce que j'aime beaucoup la musique vocale, et la preuve, c'est que je suis répétiteur à l'opéra d'Helsinki, donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur.
J'étais répétiteur, oh, c'est, oui, c'est pas grave du tout. Ça, c'était dans les années 80, et donc ça fait partie de mon passé d'avoir travaillé avec les voix dans un opéra. J'aimerais bien aussi travailler avec les voix en tant que compositeur un jour.
Alors, qu'est-ce que c'est pour vous un bon livret? Qu'est-ce qu'il doit y avoir dans un bon livret pour que de suite vous partiez à la composition?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ma femme, my wife, is a script writer, and she just last year did the libretto, le livret to a good friend of mine, Sébastien Fagerlund, finlandais, sur le sujet de Ingmar Bergman, Sonate de l'automne. They made an opera, full evening opera on the autumn sonata, and it was very interesting to follow the whole process of turning Bergman film into opera, because you have to change certain things in order to make it functioning.
D'accord.
Comme une opéra. Mais évidemment, la question est gigantesque, parce que l'opéra de Mozart, bien sûr. Pour moi, Moussorgski, livret parfait, c'est Boris Godounov. L'opéra préféré du XXe siècle pour moi, ça demeure Alban Berg Voček. Donc, en même temps, côté dramatique, dramaturge, et...
Violent.
Pas forcément.
Voček, c'est violent, quand même.
Ça, c'est sûr. Pouvoir... Many kings, queens, but it's complicated. I mean, Peter Sellers, who has been doing all the operas by John Adams, and my cher colleague Kaija Saariaho, when we speak about opera, all the possibilities that you have, how do you make an opera today connected to our society? Like John Adams, I think that his connection to our time is excellent. Nixon in China, pour moi, reste vraiment l'opéra préférée de chez lui. C'était un sujet extraordinaire, je trouve.
Bon, en gros.
Le début. Oui, donc ma femme écrit des scripts, et notamment elle a travaillé sur un livret avec Sébastien Faderlund qui a permis de transcrire la sonate d'automne. Et c'était un processus intéressant de voir comment on change d'un film vers un opéra avec tout ce qui caractérise un opéra. C'était un processus très intéressant. Et pour la fin, puisqu'il y a eu un petit intermède en français, Peter Sellars, on discute souvent de justement comment faire un opéra aujourd'hui qui soit connecté à notre société. Et pour moi, par exemple, le Nixon in China de John Adams, ça montre vraiment un exemple de ce qu'on peut faire aujourd'hui.
D'accord. Alors, vous avez créé un ensemble, alors je vais essayer de le lire, Taimi.
Oui.
Voilà. Alors, pourquoi créer un ensemble de musique contemporaine? En plus, vous avez choisi quand même un chef d'orchestre, Esa-Pekka Salonen, qu'on n'a jamais vu ici et que j'aimerais bien voir. Mais bon, pourquoi créer un ensemble de musique contemporaine?
This was in the early 80s, so for us it was essential to have a laboratory where to try out things. And it turned out to be a very fruitful combination of musicians, because as you mentioned, Esa-Pekka and me, both of us, we were composers and musicians. Esa-Pekka, of course, then became a great conductor on top of everything else. Musicians were Anssi Karttunen on cello, we had Kari Kriiku clarinet, friends, many percussion players, and always electronics involved. So for me, those years was all about learning how to work these instruments. The little I know about string instruments, the little I know about wind instruments, it all comes from those years of laboratory. So for me, having had that collaboration is really an essential part of my activity.
Alors c'était au début des années 80, mais c'était un réel laboratoire d'expérimentation. Et finalement, ça a été une combinaison très très fructueuse de musiciens avec des compositeurs, des instrumentistes. Et ça m'a permis d'apprendre comment fonctionnent tous ces instruments. Ce que je sais actuellement sur la façon dont fonctionnent les cordes, dont fonctionnent les vents, ça vient pour beaucoup de ce qui s'est passé à cette époque-là. Et c'est vraiment un moment essentiel de ma carrière et de mon apprentissage.
Aussi, c'est ce que j'ai eu le contact avec la musique électroacoustique. Ça vient de cette période-là. Après Toimi, j'ai passé plusieurs années à l'IRCAM à Paris pour aussi travailler avec les ordinateurs, etc. Donc c'est pour moi, ça a toujours été quelque chose lié avec un dialogue, soit avec les musiciens, soit bien sûr avec les ordinateurs aussi.
Alors, vous avez fait au moins une résidence à l'Orchestre de New York. Alors, j'aimerais ça, 2010-2011, je crois. Qu'est-ce que ça apporte de différent quand on est compositeur en résidence?
Yes, I had 3 years, 2009 till 12 with the New York Phil, and then I had another similar 13 till 17 with the London Philharmonic Orchestra. And actually, I'm today... Still, for one more year, I'm the composer in residence with the Orchestre National de Lille.
Ah, d'accord.
We did already last year. For me, this is very important in the sense that I've been freelance composer all my life, and I have the opportunity to work with different wonderful groups and orchestras, etc. Very often, you feel you write a piece, it's played, and you go home and you wonder what was the impact. When you have a residency, you get to know people. You get to know the structure, infrastructure of an orchestra. I was part of the programming team, etc. You get to know the players, and the players get to know your music. I would say that's one of the really important parts of it. So it's all based much more on continuation, so you can reach further. So I think that is, in one phrase said, the essence of a residency.
Alors effectivement, j'ai passé 3 ans au New York Philharmonic. J'ai également travaillé avec le London Philharmonic Orchestra. Et actuellement, je suis encore avec l'Orchestre National de Lille. Et c'est vraiment très important ce qui se fait dans ces résidences, parce que j'ai été un compositeur freelance toute ma vie. Et donc, on écrit, on va jouer à un endroit et puis on rentre à la maison. Alors que là, il faut connaître la structure de l'orchestre, apprendre à connaître les personnes, apprendre à connaître le lieu. C'est très important. Donc, c'est un travail finalement qui est plus en profondeur, qui est plus suivi et qui permet d'aller plus loin. Donc le travail en résidence, c'est quelque chose d'important pour moi.
Alors on va juste parler un peu de la composition. Où et quand composez-vous ? Est-ce que vous êtes un rapide pour la composition ? Par exemple, si on prend Pierre Boulez, il n'avait jamais fini une œuvre. Il revenait toujours. J'ai l'impression que chez vous, ce n'est pas tout à fait pareil.
I've touched pieces after first performances. So, for instance, first piano concerto, I ended up revising 3 times before I was content with the piece. But I need to go further. So for me, I finish a work and then you take the next chapter. But I'm not a fast composer. I pay my bills based on the fact that I compose. So I need to produce music also. Otherwise it wouldn't be possible. So I have a responsibility there. But I think it's for me very much similar to keeping up an instrument. You have to work every day. And if you work every day, then 2 days of the week you can produce something. But that wouldn't happen unless you had all the other days of trying out things and looking and finding and thinking, etc. So it's a discipline. It's a way of living. And I can say statistically that I feel more comfortable when working than not working.
Il m'est arrivé de retoucher des œuvres. Par exemple, mon premier concerto pour piano, je l'ai réécrit 3 fois. Mais moi, j'ai besoin d'avancer. Je finis une œuvre et puis j'ai envie de passer au chapitre suivant. Alors, même si je ne suis pas très très rapide, j'ai quand même besoin d'écrire des œuvres puisque c'est grâce à ça que je paye mes factures. Mais il faut écrire tous les jours. C'est comme finalement travailler un instrument. Il faut avancer. Et peut-être que sur la semaine, il n'y a que 2 jours qui donneront quelque chose. Mais c'est une discipline de vie. Et statistiquement, je dirais que je suis mieux quand je travaille que quand je ne travaille pas.
Voilà. Juste pour conclure, vous pouvez nous expliquer la logique du concert.
Ah, oui. En fait, on vient de changer la pièce de Bach pour une pièce pour la très fameuse Chaconne.
D'accord.
Et Chaconne...
Donc jouer au violon. Oui. Au violon seul.
Oui, c'est ça. Chaconne... Et c'est Katarina Stenius, elle a écrit un livre sur ma musique il y a 15 ans. Et le livre s'appelle Chaconne. Et pour moi, c'est une façon de travailler la musique qui a toujours été très proche de ma vie. C'est-à-dire, Chaconne, qu'est-ce que c'est? C'est une forme baroque où il y a une chaîne des accords qu'on répète, mais on fait le filigrane. Autour de ça, et on cherche à cacher, c'est ce qui est la chaconne, mais depuis quelque part en bas, il y a cette structure. Donc, je suis très content qu'on a finalement changé la pièce pour chaconne, comme ça donne une relation avec ma musique. Brahms n'a pas besoin de moi, ça c'est sûr. Mais moi, j'ai besoin de Brahms. Et moi, j'adore la musique de Brahms. Donc, quand Florent Beaufarancy et Marine avaient proposé de jouer Brahms, je me suis dit, oui, c'est très bien. En plus, Brahms, il vient du Nord. Lui, c'est Hambourg, c'est pas le pays nordique, mais
C'est pas le Sud non plus.
Non, c'est pas le Sud non plus. Donc, bien sûr, Liszt, grand compositeur, c'est ce qu'on va entendre demain dans l'autre concert, c'est la virtuosité par excellence pour moi, la musique. C'est ce que je cherche avec mes écritures instrumentales, c'est vraiment une façon de travailler la musique. Virtuose, rapide, technique, Donc c'est, mais c'est je suis très content avec le programme que, parce que c'est une belle représentation de ce qui est mon parcours dans la musique de chambre. Évidemment, j'ai plus travaillé avec orchestre qu'avec la musique de chambre, mais c'est quand même, c'est aussi c'est une activité pour moi importante, la musique de chambre.
Juste pour conclure, mon émission de musique à la radio s'appelle Chacona.
C'est pas vrai. C'est extraordinaire.
Voilà. Extraordinaire. Je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir.
Merci.
Merci à vous. Voilà, vous venez d'écouter l'interview du compositeur Magnus Lindberg. C'est une vraie joie d'avoir pu rencontrer ce monsieur, qui est un grand monsieur. Et donc, il était là à Montpellier, car il y avait deux concerts associés à son nom. Il en avait un le mercredi 24 et l'autre le 23 juillet à 17h30. Et dans ces deux concerts, on a pu entendre des œuvres de Magnus Lindberg. Et d'ailleurs, vous avez pu écouter, dans le premier intermède, je dirais, Santa Fe Project pour violoncelle et piano, qui a été enregistré chez la firme Ondine en 2012. Il y avait Anssi Karttunen au violoncelle et Magnus Lindberg au piano. Et vous avez pu entendre un deuxième interlude, le début de Kraft de M. Magnus Lindberg. C'était un orchestre dirigé par Esa-Pekka Salonen, c'est un disque Ondine également. Et sachez que sur ce CD, il y a également le premier concerto pour piano. Et pour être tout à fait complet par rapport à Magnus Lindberg, si vous allez au concert ce soir jeudi, vous pourrez entendre encore du Magnus Lindberg par son concerto pour clarinette. Alors pour les concerts d'aujourd'hui, le jeudi 25, sachez qu'il y en a un nouveau 10, alors on ne peut pas parler de tout. Nous parlerons du trio Messiaen qui est au Crès à 19h à la Maison du Patrimoine, car nous aurons un interview que je vous présenterai. Vous aurez bien sûr dans le concert de 20h à Berlioz, au Corum, avec justement l'orchestre philharmonique de Tampere dirigé par Santus Matthias Ruvali, que nous devrions interviewer et que vous aurez là. Et également le chœur de chambre des Les Éléments de Joël Subiette qui est à Cahors à 21h. Et demain, vendredi, vous avez pas moins de 4 concerts, c'est la fin. Donc vous aurez en particulier le Théo Fouchenré au piano, le duo Intermezzo, le Quatuor Ellipsos, tout ça, ça se passe au Château d'Eau. Et surtout, vous aurez à 21h la fin du concert, la fin de l'opéra. C'est à nouveau Santus Matthias Ruvali qui va diriger l'orchestre philharmonique de Tampere. Le titre s'appelle Last Night. C'est un concert surprise. Je sais ce qu'il y a, mais je ne vous le dirai pas. Voilà. Donc ceci ne termine pas notre émission puisque nous retrouverons pour écouter justement les interviews de Santus Matthias Ruvali et ainsi que du trio Messiaen. Nous le retrouverons la semaine prochaine. Je remercie Christelle Rennes qui nous a assuré une excellente traduction et j'espère qu'on en refera d'autres comme ça. C'était trop efficace. Merci Christelle.